Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire de ce journal, clôture hier dimanche en Tunisie du sommet de la francophonie avec comme objectif affiché de peser plus dans les règlements de crise, notamment en Afrique. Selon le Premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé, l'agression de la RDC par les Rwandais sous couvert des rebelles du M23 a été clairement condamnée dans les résolutions prises au cours de ces assises. Et puis la conférence des Nations Unies sur le climat, la COP27, s'est achevée hier dimanche en Égypte après de longues et intenses négociations. Les participants ont finalement adopté un accord final visant à compenser financièrement les dégâts causés par le changement climatique dans les pays les plus vulnérables. L'invité de ce journal est la coordonnatrice de l'ONG Femmes en Action pour le développement multisectoriel FADEM, dont le siège se trouve à Bounia, en Ituri. Georgine Mav a reçu vendredi dernier un prix spécial pour avoir contribué à la libération des membres de la Task Force pour la paix qui étaient pris en otage par des miliciens de la CODECO. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le sommet de la francophonie s'est achevé hier dimanche à Tunisie avec l'objectif affiché de peser plus dans les règlements de crise, notamment en Afrique. Interrogé lors de sa conférence de presse sur les tensions entre la RDC et le Rwanda notamment, Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'OIF, a déclaré que toutes les zones de conflit ont été sujettes à de longs débats. Pour sa part, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé, représentant personnel du président de la République à ce sommet, a exprimé sa satisfaction du fait que la voix de la RDC ait été entendue. D'après lui, l'agression de la part du Rwanda sous couvert les rebelles du M23 a été clairement condamnée dans les résolutions prises de cours des assises. D'autres détails avec vous, Billy Van Lutumba.
La participation de la RDC aux assises du 18e sommet de la francophonie, souligne Samalou Koundé, était une occasion de réaffirmer la position offensive diplomatique de la RDC impulsée par son président Félix Tshisekedi et aussi rappeler la position de la RDC comme grand pays francophone du point de vue démographique.
Nous remercions déjà la francophonie parce que nous avons pu voir dans la résolution qui a été prise cette condamnation que nous avons des violences qui sont faites au Congo, ce soutien humanitaire qui doit être apporté, mais surtout au-delà de cette question les condamnations à tout soutien aux groupes armés et forces négatives qui sévissent en République démocratique du Congo. Et donc nous espérons qu'avec toutes ces actions, il y aura une convergence pour que finalement nous puissions avoir la paix.
Samalou Koundé affirme attendre voir une solidarité impliquant tout le monde afin d'avoir la résolution de cette question sécuritaire et un appui des processus en cours, en l'occurrence celui de Nairobi ainsi que celui de Luanda dirigé par le facilitateur Uhuru Kenyatta et le président Ruto et du côté de l'Angola par le président Lourenço. Signalons qu'en marge de ce sommet, le Premier ministre a eu des rencontres bilatérales avec le président de la Commission de l'Union africaine, le président en exercice de l'Union africaine et le président de la France. Il a également échangé avec le président d'Aïchimier, président en exercice de l'EEAC, organisation sous-régionale qui traite actuellement de ces questions particulières de sécurité à l'est de la RDC.
En bref, le président de la République du Kenya, William Ruto, est arrivé à Kinshasa en fin de soirée hier dimanche pour une visite officielle. Cette première visite du président kenyan s'inscrit dans le cadre du processus de Nairobi au regard de la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire de la province du Nord Kivu. Le président kenyan et son homologue de la RDC auront un tête-à-tête ce lundi matin au Palais de la Nation, suivi d'une rencontre bilatérale entre les délégations des deux États. Sur le terrain des opérations au Nord Kivu, un calme relatif a été observé hier après-midi sur les lignes des fronts dans le groupement Bouumba, en territoire de Niragongo et sur l'axe Kiwanja-Ishasha dans le groupement de Binza. Des sources concordantes renseignent que les tirs ont cessé dans l'après-midi sur les deux lignes de front, notamment au niveau des trois antennes à 20 km de Goma. C'est dans cette zone que se sont déroulés les combats à la mi-journée entre les FARDC et les rebelles du M23. Les hostilités se sont étendues à Kiseguru et Katuiguru dans le groupement de Binza. À l'heure qu'il est, il est difficile d'avoir un bilan précis de ces affrontements car l'armée n'a pas communiqué sur ce qui s'est passé pendant la journée. Toujours au Nord Kivu, la situation sanitaire dans les sites de déplacés situés dans les territoires de Niragongo au nord de la ville de Goma est préoccupante. Selon le président de ce camp, En l'espace de 2 jours, soit de jeudi à vendredi, 8 cas de décès ont été enregistrés dans ce site de déplacés dont Kanyarutinya. Une information confirmée par le coordonnateur de la protection civile qui dit avoir déjà remis à la division de santé du Nord Kivu un kit médical ainsi que d'autres intrants pour une réponse urgente à cette situation. La protection civile demande aux belligérants d'ouvrir un couloir humanitaire sur l'axe Goma-Rutshuru afin de permettre aux communautés humanitaires d'accéder dans les zones où se trouvent les déplacés. Des détails avec Bernadine Diambou.
Ces décès sont enregistrés au centre de santé de Kanyarutinya et à l'hôpital Sebeka Ndosho. Il s'agit d'une femme de 44 ans et 7 enfants. Ces personnes souffraient de plusieurs pathologies, dont la diarrhée et le paludisme. Outre les maladies, les conditions difficiles que vivent ces déplacés au quotidien sont à la base du décès. Contacté, le coordonnateur de la protection civile au Nord Kivu confirme l'information. Joseph Makundi dit avoir mis à la disposition de la division provinciale depuis mercredi un kit médical composé des médicaments et autres intrants médicaux pour la prise en charge des personnes vulnérables. Les déplacés de Tongo, Kibirizi, Bambo dans les territoires de Rutshuru vont aussi bénéficier de ces kits médicaux. Son coordonnateur annonce également à la population du Nord Kivu qu'elle va organiser les consultations communautaires à Goma, Walikale, Masisi, Niragongo, Beni, Butembo et Lubero en vue d'élaborer un plan de contingence multi-risque avec l'appui du PNUD et du gouvernement provincial du Nord Kivu. Goma, Bernardine Diambou, Radio Okapi.
Dans les mains Ndombe, le député national Willy Bolio, élu du territoire des Bolobo, dénonce les conditions des réfugiés des Kwamout se trouvant actuellement dans plusieurs villages. Il s'agit des ceux qui avaient fui les violences éclatées dans le territoire des Kwamout à la suite du conflit interethnique. D'après cet élu, ces réfugiés n'ont jamais reçu une quelconque assistance de la part du gouvernement central. Il plaide auprès de celui-ci pour assister ces milliers de Congolais en difficulté. Le député national Willy Bolio est joint par Irène Boma.
Les déplacés, ils sont nombreux au Congo-Brazzaville, ils ne sont pas pris en charge, mais ils sont nombreux sur des petits villages là-bas. Ngabé, Madoukou Trécho, tous les petits villages. Ils vivent dans des conditions très déplorables. Ils n'ont pas l'assistance du gouvernement. Je suis en train de me poser la question, il faut attendre le jour où les Bateke auront un premier ministre pour que le gouvernement s'occupe de leurs déplacés. Il faut attendre le jour où les Bateke auront un président de la République pour qu'on y pense. Je ne sais pas. Sinon, je pense que le Congo est un. Il va falloir que le gouvernement tienne le taureau par les cornes. Ils n'ont pas d'assistance. Le gouvernement a sorti l'argent une seule fois pour assister les déplacés qui sont à Bandunduville, quelques-uns à Kinshasa et à Lediba, ainsi de suite. Pour ça, l'essentiel est que le gouvernement agisse vite.
Au Kasaï oriental, près de 2000 recrues quittent dès ce lundi la ville de Mbujimayi pour suivre une formation militaire à Kinshasa. D'après l'officier en charge de recrutement à la 21e région militaire, ces jeunes ont répondu favorablement à l'appel lancé par le chef de l'État les invitant à s'enrôler dans l'armée en vue d'aider le pays à faire face aux défis sécuritaires auxquels il est affronté, notamment la guerre de l'Est. Des explications avec vous, Esther Ndalafina.
C'est depuis samedi soir que ces nouvelles recrues sont regroupées au camp militaire scellé pour le départ au centre de formation. C'est dimanche, ces jeunes ont sillonné les artères de la ville de Mbujimayi en chantant pour inciter les autres jeunes à s'enrôler au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Jovo Moussoua s'est dit prêt à servir la nation sous les drapeaux.
Moi, j'ai pas à la formation militaire pour servir la RDC, mon pays.
Ilunga Kasongo dit avoir répondu favorablement à l'appel du chef de l'État.
Je pars parce que le chef de l'État a lancé un appel aux jeunes pour servir sous les drapeaux.
Pour le lieutenant-colonel François Chungu, chargé des recrutements à la 21e région militaire, l'objectif est d'atteindre plus de 4000 nouvelles recrues. À la causerie morale de ce dimanche matin, François Chungu leur a prodigué des sages conseils.
Je vous souhaite toujours bonne chance et encouragement à ne pas voler, à ne pas faire d'autres choses équipées, trouver les mort.
Rappelons que le mercredi dernier, plusieurs jeunes avaient manifesté en Mbujimayi contre l'agression rwandaise à l'est de la RDC. Dans leurs mots, certains ont demandé les armes au chef de l'État pour sauvegarder l'intégrité territoriale. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
En Ituri, la plupart des jeunes des territoires de Mahagi et Daru s'adonnent à l'entrepreneuriat, notamment le petit commerce entre la RDC et l'Ouganda. D'autres pratiquent l'agriculture ou travaillent dans des entreprises privées, ce qui les pousse à ne pas se laisser manipuler pour intégrer les groupes armés. Selon plusieurs sources concordantes, le comportement de ces jeunes garantit la stabilité de ces deux entités territoriales qui n'ont pas connu la guerre depuis près de deux décennies. Des détails avec Isaac Remouyopé.
Dans les territoires des Mahagi, de nombreux jeunes cultivent notamment les maniocs, les haricots, les sorgho et vendent ces produits dans les différents marchés locaux ou traversent la frontière pour les écouler en Ouganda. Certains combinent avec l'élevage des poules et des chèvres pour gagner la vie. D'autres font les taximotos, les commerces ou servent des commissionnaires aux opérateurs économiques ougandais pour des transactions commerciales entre les deux pays. D'autres encore travaillent dans des entreprises privées, notamment les agences de voyage, les hôtels, les restaurants qui naissent chaque année. Les plus jeunes s'occupent des études dans les différentes écoles qui pilulent dans la région, même décor dans les territoires voisins d'Arou. Selon la société civile locale, il est rare de trouver des jeunes oisifs pour se laisser manipuler à intégrer des groupes armés. Innocent Wabekoudou.
Naturellement, on n'a pas besoin de la guerre parce que chacun est censé travailler pour quand même une petite amélioration, pour un petit développement. C'est pourquoi le mouvement des jeunes pour l'insécurité, ça ne profite pas à nous autres ici.
L'existence des communautés quasi monolithiques et le développement des activités sportives dans tous les villages sont également des facteurs de stabilité et de cohésion dans ces entités. Bounia Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Après de longues et intenses négociations, les participants à la conférence des Nations Unies sur le climat, la COP27, qui s'est clôturée hier dimanche en Égypte, ont finalement adopté un accord final. Cet accord sur les pertes et dommages vise à compenser financièrement les dégâts causés par les changements climatiques dans les pays les plus vulnérables. L'adoption de ce texte par consensus a été qualifiée d'historique par ses promoteurs sous un tonnerre d'applaudissements. Le ministre zambien de l'Environnement le juge de très positif pour 1,3 milliard d'Africains. Un bémol, cependant, les pays pollueurs n'ont pas cédé sur la question relative à la baisse des gaz à effet de serre, pourtant très attendue par le gouvernement des pays en voie de développement et les ONG. Pelé Kipelamondo.
Mieux vaut peu que rien, c'est le moins que l'on puisse dire au vu de la moisson quelque peu moindre récoltée à la COP27 par les pays qui payent les lourds tributs du réchauffement climatique. Si l'accord final souligne les besoins immédiats des ressources financières nouvelles, supplémentaires, prévisibles et adéquates pour aider les pays en développement qui sont particulièrement vulnérables aux impacts économiques et non économiques du changement climatique, il est loin de satisfaire la grande majorité des États qui se sont rendus au pays des pharaons avec des attentes pressantes. S'il se réjouit de cet accord final, le secrétaire général de l'ONU n'hésite cependant pas de les qualifier d'insuffisants. De toute évidence, cela ne suffira pas, mais c'est un signal politique indispensable pour reconstruire la confiance brisée, affirme Antonio Guterres. Pour sa part, l'Union européenne s'est dit déçue par l'accord de Sharm el-Sheikh. D'après le vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans, je le cite, « Ce que nous avons là, c'est un pas en avant trop court pour les habitants de la Terre. Il ne fournit pas assez d'efforts supplémentaires de la part des principaux émetteurs pour augmenter et accélérer leur réduction d'émissions. » Fin de citation. « On a gagné la bataille et non la guerre », indique de son côté Alpha Kaloga, l'un des délégués de l'Afrique à la COP27.
Promouvoir les droits des enfants par le sport, c'est le thème choisi par l'UNICEF RDC pour célébrer le 20 novembre la journée de l'enfance. Cette année, cette date coïncide avec le lancement de la Coupe du monde de football Qatar 2022. Plusieurs activités sportives ont eu lieu au quartier GB à Kinshasa pour marquer cette journée. Les ambassadeurs UNICEF, Lokwa Kanza et Céline Banza étaient présents, ainsi que les légendes du football Trésor Loaloa, Joël Kimwaki et l'ancien président de la FECOFA, Constant Omari. Vanessa Kongolo, reportage.
Pour célébrer cette journée de droits des enfants, des matchs de football et de basketball entre enfants ont été organisés au terrain catalan AGB. Des ballons ont été remis aux enfants par l'UNICEF. L'un d'entre eux témoigne.
Je suis content de l'UNICEF d'avoir remis ce ballon. Ça va m'aider à me pratiquer, de m'entraîner.
Pascal Lokwa Kanza, ambassadeur UNICEF, a invité les parents à prendre conscience de l'importance de l'éducation des enfants.
Donnons à nos enfants l'occasion de pouvoir apprendre pour le futur parce que ce pays, ou même je dirais cet univers où nous sommes, c'est vous qui allez le faire demain.
Le sélectionneur des Léopards A' a réaffirmé son engagement à protéger les enfants contre la pédophilie dans les milieux sportifs. Otis Ngoma.
On veut un sport sain, on veut que nos enfants, nous qui viennent pratiquer ce sport, ne puissent pas avoir aucun souci dans cette pratique.
Les représentants de l'UNICEF en RDC a quant à lui salué l'engagement de ses ambassadeurs à défendre le droit des enfants. Grant Leiti.
L'UNICEF réitère son engagement à appuyer le gouvernement de la RDC pour garantir les droits de chaque enfant congolais et lui donner la possibilité de développer son plein potentiel.
En bref, le coup d'envoi du Mondial Qatar 2022 a été donné hier dimanche au cours d'une grande cérémonie haute en couleur. En match d'ouverture, le Qatar, pays organisateur en groupe A, a perdu devant l'Équateur sur le score de 0 contre 2. Evariste Valencia a signé un doublé. La compétition se poursuit ce lundi avec un autre match de groupe A qui va opposer l'Angleterre à l'Iran. Dans le groupe B, le premier représentant africain va entrer en lice. Il s'agit du Sénégal qui croisera le fer avec les Pays-Bas. Les Lions de la Teranga joueront sans Sadio Mané. En actualité internationale, au Nigeria, des inondations ont fait au moins 600 morts et près de 2 millions de déplacés à travers le pays. Plusieurs semaines après le pic de la crise, l'eau n'est toujours pas complètement redescendue et de nombreux déplacés sont totalement livrés à eux-mêmes malgré le risque sanitaire. Dans l'état de Bayelsa, dans le delta du Niger, les rivières sont entièrement sorties de leur lit et ont toutes envahi. L'Iran a de nouveau bombardé tard dimanche soir des groupes d'opposition kurdes iraniens basés au Kurdistan d'Irak voisin. Moins d'une semaine après des frappes similaires ont annoncé ces groupes et des responsables locaux. Le Parti démocratique du Kurdistan d'Irak d'Iran et le groupe nationaliste kurde iranien Komala ont confirmé que les bombardements avaient visé leurs installations dans cette région du nord de l'Irak, sans évoquer les bilans.
L'invité.
L'invitée de ce journal est la coordonnatrice de l'ONG Femmes en Action pour le développement multisectoriel, FADEM, dont le siège se trouve à Bounia, en Ituri. Georgine Mavé a reçu vendredi dernier un prix spécial pour avoir contribué à la libération des membres de la Task Force pour la paix qui étaient pris en otage par des miliciens de la CODECO. Elle partage son expérience dans cet entretien avec Jean-Claude Lokidili.
Georgine Love, bonjour. Que ressentez-vous après avoir reçu un tel prix?
Je suis très, très, très fière de ce prix que j'ai reçu aujourd'hui. C'est après beaucoup de batailles, beaucoup de travail à bâtir ce terrain que je l'ai mérité et je suis fière de l'avoir aujourd'hui. Nous avons sensibilisé le groupe armé. Je suis allée sur le terrain. Nous avons participé à beaucoup de libérations des otages. Et c'est ça le prix. Ils ont vu bon que j'ai travaillé quand même à attaquer une femme.
Vous avez pris des risques, hein?
Oui, j'ai pris beaucoup de risques, mais j'étais déterminée. Les hommes parlaient, mais sans aller en avant. J'ai pris le risque là d'aller vers les groupes armés. On a trouvé qu'ils étaient flexibles et nous ont accueillis. On a commencé à interagir avec eux, ils sensibilisaient ensemble. Ils ont donné l'espace. Moi, attaquer une femme, ils ont donné l'espace d'abord à m'écouter. Ils étaient très attentifs à aussi demander ma contribution, sensibiliser-les. Ils présentaient surtout les victimes, ce sont les enfants et les femmes. Et c'est ça ce qui a affecté aujourd'hui à Kalmi, à Djougou. Et aussi, tout ce que nous avons fait, la finalité était, on les a accompagnés des accords qui étaient signés ici à Bounia. Je pense que tout le monde était au courant de mon implication en tant que femme déterminée.
Et c'est pour vous une fierté en tant que femme d'avoir contribué aussi pour le retour de la paix, même s'il n'y a pas encore la paix totale.
Je suis très, très fière d'avoir contribué pour ces paix-là. Ici, aujourd'hui, il y a la Kalmi. C'est que nous avons travaillé. Moi, en tant que femme, je suis fière de continuer dans cette thématique-là. Bien sûr, il y a trop de difficultés, la mort est là, il y a beaucoup de défis. Et aussi, nous avons fait sans moyens, aucun financement à notre égard, mais juste les sentiments. Nous devons contribuer pour notre province, notre territoire, et pourquoi pas notre population.
Un message particulier justement adressé aux femmes, aux jeunes filles qui ont peur, mais voilà, peut-être qui pensent que la recherche de la paix, c'est seulement l'apanage des hommes. Mais voilà, vous, femmes, jeunes filles, vous avez accepté aussi. Quel message avez-vous à cette occasion envie d'adresser aux femmes, aux jeunes filles de l'Ituri?
Je vais dire aux femmes de s'engager. Parce qu'on ne peut pas parler de la paix en restant dans les bureaux. Nous devons descendre sur le terrain, aller chercher les paix là où se trouve. Nous demandons les contributions de chaque femme. Il ne faut pas dire seulement nous sommes ici, tout comme ça, mais nous devons aller vers cette paix-là, rechercher cette paix-là. Oui, c'est cette activité qui a beaucoup de peur, de stress, tout comme ça, parce qu'il y a trop de menaces. Si vous n'êtes pas déterminés, n'osez pas d'aller. Mais j'encourage des femmes de faire la route ensemble avec nous, qu'on cherche cette paix-là pour que la stabilisation règne dans tout Djougou. dans tous les tours.
Vous pensez aussi que les hommes ont un rôle à jouer pour vous booster, pour vous pousser, pour vous encourager?
Oui, les hommes ont le rôle à jouer parce que souvent, dans des groupes armés, la plupart, ce sont les hommes. On dit toujours que les femmes sont souvent minoritaires. Mais les hommes aussi doivent s'engager. C'est une question de genre. Nous devons, nous tous, avec les hommes et les femmes, de parler le même langage pour que la paix revienne totalement en Éthiopie.
Est-ce que ça a été facile ce travail-là? Est-ce que vous avez été appuyé? Est-ce que vous avez soutenu? Je ne sais pas.
En tout cas, nous n'avons pas eu l'appui directement pour nous, mais on a eu des appuis à travers les communautés aussi, les gouvernements provinciaux, mais c'était un appui portier qu'on nous donnait à cas de certaines activités. Mais on n'a pas eu les financements. Et par rapport, par exemple, au kidnapping, jusqu'à présent, vous le constatez, c'est partout. Mais on n'a pas un appui pour résoudre si toutes les femmes sont victimes. Même au moment où nous parlons, il y a des femmes qui sont kidnappées par-ci, par-là. On n'a pas un moyen consistant qui est permanent. On n'a pas un bailleur fils qui nous appuie par rapport à cette thématique. Nous demandons à toutes les organisations internationales ainsi que la MONUSCO de venir vers nous, nous appuyer avec des budgets pour nous permettre à résoudre et à prévenir les pires avant que ça puisse arriver totalement.
Madame Love et Georgine, je vous dis merci.
Merci beaucoup.
L'invité de ce journal était la coordonnatrice de l'ONG Femmes en Action pour le développement multisectoriel, FADEM. Elle s'entretenait avec Jean-Claude Lokidile. Merci de continuer à réécouter ce journal sur toutes les plateformes digitales des Radio Capi.